Donc bonjour et bienvenue sur ce podcast présenté par Adèle et Charlotte. Nous vous accueillons aujourd'hui pour discuter ensemble d'un sport qui nous tient à cœur, l'aïkido. Pour cela, rien de mieux que d'échanger avec Lydia Alerti, enseignante 5e dan ceinture noire et présidente de l'association Aïkido Stade Poitevin. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît?
Oui, donc je suis Lydia Alerti, je fais de l'aïkido à Poitiers depuis 1988, donc ça fait presque, ça fait 38 ans, 88-89. J'ai commencé ici au début de mes études de médecine. Donc au début, j'en ai fait beaucoup, parce que je ne faisais que ça, que mes études et de l'aïkido. Donc bien progressé. J'ai continué tout le temps, je n'ai pas fait d'arrêt toute ma carrière d'aïkidoka. J'ai des périodes où j'en ai fait un peu moins, parce que études, stages d'internat à l'autre opposé de la région, des grossesses et des enfants. Mais je n'ai jamais arrêté, même pas un an, en fin de compte. Donc voilà, plus ou moins régulièrement. J'ai progressé petit à petit. J'ai fait beaucoup de stages dès le début d'aïkido. Je pense que c'est très, très important. Je suis arrivée à l'aïkido parce que je cherchais un art martial. J'avais envie de faire du karaté au début. Je faisais moins en sport, tennis et basket. Et j'avais envie de faire un truc où c'était un peu plus exclusif et aussi avec une voix derrière. Et quelqu'un m'a proposé l'aïkido. Et en fin de compte, quand je suis tombée dedans, j'ai continué.
Comment fonctionnent en fait les grades dans cet art martial?
Alors, quand on commence, comme tous les arts martiaux, en fin de compte, on a le même système. Quand on commence, on a au début les grades Q et après, c'est les grades Dan. Les grades Dan, c'est à partir du... Alors, les grades Q vont du 6e Q au 1er Q. Donc, c'est une préparation qui se fait petit à petit. On débute, on a le 6e Q dans l'année, puis après le 5e, 4e Q, 3e Q. Ça correspond aux couleurs de ceinture quand on les voit dans certains sports. Nous, on ne met pas de couleurs de ceinture. Parce que justement, on veut que tout le monde soit à peu près... on travaille tous ensemble. Il n'y a pas de compétition à l'aïkido. Autrement, ça correspondrait à la ceinture jaune, orange, verte, bleue, marron, premier coup, et la ceinture noire après, qui est le premier dan. Et les dan, c'est dans l'autre sens. C'est premier dan à 7e, 8e dan, le plus haut gradé en Europe. Au Japon, il y a peut-être un 9e dan. Donc, le premier dan, c'est la ceinture noire. Et c'est là où on dit qu'on débute vraiment l'art martial. Donc voilà, on peut pas faire, on peut pas dire aïkidoka, et c'est vrai dans la même chose, dans beaucoup d'activités de budo, en faisant qu'une année d'aïkido par exemple. La progression se fait petit à petit. C'est un peu long, mais c'est intéressant. Voilà. Et les grades, alors les Q se passent à l'intérieur des clubs, et à partir des premiers dan, c'est des passages officiels avec un jury, et qui se passent au niveau, donc, alors au début c'était régional, et après c'est au niveau national avec deux endroits.
Et en combien de temps vous avez obtenu votre ceinture noire?
Alors, c'est ce que j'ai regardé parce que je ne me rappelais pas. En fin de compte, j'ai commencé donc à 88, octobre 88, donc 89, et j'ai eu ma ceinture noire, mon premier dan en 97. Mon premier Q, je l'avais eu en 91, donc il s'est passé quand même 5 ans entre le premier Q et le premier dan. Normalement, ça peut être au minimum un an, ça peut être 2-3 ans. Mais en effet, j'ai passé une première fois mon premier dan que je n'ai pas eu. Et c'est un passage qui s'était mal passé parce qu'il y a deux fédérations à l'aïkido. Et donc, on préparait nos grades ensemble. Et là, les deux fédés, donc les deux jurys, ne se sont pas mis d'accord. Donc, sur 14 participants et pratiquants à passer le premier dan, ils se sont fâchés. Donc, ils en ont pris un du premier groupe et un du deuxième groupe. Et tous les autres, on a été recalés. Du coup, ça m'a un petit peu énervée dans la voie de l'aïkido, qui est une voie soi-disant de l'harmonie. Et je me suis dit, j'ai continué l'aïkido, mais sans passer de grade. Et un jour, quelqu'un m'a récupéré en me disant, il faudrait peut-être que tu y ailles. Donc, je l'ai passé en 97. Après, je crois que j'ai passé mon deuxième en 2001. J'ai regardé. Le troisième en 2005. Le quatrième, ça devait être vers 2010. Et le cinquième, c'était 2023. Voilà. Alors après, il y a toujours beaucoup de passages et de temps obligatoires entre les grades, en effet, plus on passe.
Quel est votre plus beau souvenir dans ce sport?
Alors, j'y ai réfléchi, parce que c'est quand tu as 35 ans, 36 ans d'aïki, c'est pas facile. Et j'y ai réfléchi, et je me dis qu'en fin de compte, mon plus beau souvenir... Alors, il y a des moments où on a l'impression de faire un mouvement qui est super, et on se dit, waouh, mais c'est juste un instant, en fin de compte. On ne peut pas le refaire tout de suite après. Enfin, on ne le retrouve pas obligatoirement, parce que c'est vraiment un instant de création où on se rencontre avec le partenaire qui est en face, ou l'adversaire, chez nous, c'est où on dit partenaire. Et donc, je pense que mon plus beau souvenir qui reste vraiment, qui est plus long, c'est mon passage de quatrième dan, en fin de compte. Pareil, mon troisième dan, je l'avais passé tranquille, mais j'avais pas eu l'impression qu'on avait fait des interrogations très difficiles, trop compliquées, donc j'ai pas pu m'exprimer comme je voulais dans l'aïkido. Et le quatrième dan, je suis partie, c'était à Paris. J'étais toute seule, en plus personne, je ne connaissais personne. Je suis partie en me disant, c'est pas grave, j'y vais, je m'en fiche si je ne l'ai pas. Donc je suis partie très cool, très tranquille. Et en fin de compte, là-bas, j'ai super bien vécu tout mon quatrième, mon passage jusqu'à Belgrade. J'ai dû choisir un partenaire que je ne connaissais pas, donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le tatami dans mon groupe à moi. Et on est séparés. Celui-ci, lui et moi, on était les deux à l'avoir aussi là sur. On était 14 aussi, et on est dans 10, et on était deux à l'avoir, lui et moi en fin de compte. Et j'ai vraiment vécu ça comme une expression de l'aïkido. Je me suis sentie très très libre dans tous mes mouvements. Et en effet, le jury m'a laissé m'exprimer, et j'enchaînais, et enfin, c'est un moment suspendu pour moi, ouais, ce quatrième tat. Voilà.
C'est chouette.
Ouais. Ah oui, mais vraiment, c'est. Parce que tu vois, c'était bien d'avoir les mentales, parce qu'on ne se pose pas des questions, en fin de compte. Enfin, moi, je me pose pas. Je me pose rarement sur des trucs, je vis des trucs à tout fond. Et puis là, je dis, mais c'est quoi son truc ? J'en ai pas. Puis là, si, celui-là, il est vraiment chouette.
Donc, l'aïkido, c'est un art martial japonais fondé par Osensei Morihei Ueshiba entre les années 1925 et 1969. Donc, il a fondé cet art martial pour combattre la maladie et sa faiblesse, pour se forger un corps neuf et solide. Donc, l'aïkido, il se pratique à main nue, mais aussi avec des armes. Et le but de cet art martial, c'est d'utiliser la force de son adversaire pour arriver à le maîtriser. Ce sport étant originaire du Japon, êtes-vous déjà allé dans ce pays ?
Non, pas du tout.
Alors, est-ce que vous auriez envie d'y aller et pratiquer l'aïkido directement au Japon ?
Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais qu'une envie, c'était en effet d'aller au Japon et de pratiquer l'aïkido au Japon. Avec le temps et l'âge, j'ai envie d'aller au Japon éventuellement, mais pas spécialement pour aller pratiquer l'aïkido dans le dojo, parce que je pense qu'en effet... En France, on a un très très bon niveau d'aïkido aussi. Mmh. Donc, ça serait pour voir éventuellement, mais je n'irai pas au Japon pour faire 3 semaines d'aïkido. Quoi.
D'accord, donc plus en tant que spectatrice.
Oui, voilà, ou peut-être un cours pour voir, mais en tous les cas, plus pour vivre le pays plutôt, voilà, la D'accord. culture et tout. Et pas pour l'aïkido en fin de compte.
Connaissez-vous un peu la communauté d'aïkido en France ?
Ah ouais, énormément. Depuis le temps que j'en fais, et comme j'ai fait beaucoup, beaucoup de stages, et que je me suis occupée, enfin, j'ai été quand même assez présente dans la Ligue, j'ai été un moment médecin national aussi, dans le comité départemental et tout ça. Oui, je connais tous les hauts gradés, je les connais. Mais même, enfin, je les ai vécus, on les a fait venir à Poitiers quelques-uns, ou dans des stages et tout, donc je les connais assez, assez bien, oui. Et j'en ai même certains qui sont très hauts gradés maintenant, et que j'ai vu arriver, eux, parce qu'ils ont eu une progression énorme, je me rappellerai de par exemple, Bruno Gonzalez, que j'ai vu la première fois à 16 ans, que sa mère emmenait sur un stage à Soulac, et qui me disait, oh, il veut faire de l'aïkido à fond, et ben ouais, il est maintenant dans les très hauts gradés de France. Donc plus jeune que moi, il a eu une progression qui était énorme, mais c'est son boulot, il est professionnel, quoi. Donc oui, j'en connais beaucoup et je dois dire aussi, j'ai eu la chance aussi, comme j'ai pratiqué dès le début, notre club faisait beaucoup de stages, donc on emmenait les débutants, ce qui se perd un peu, donc j'essaye de le recréer, ça, parce que pour moi, c'est important. Donc j'ai fait mes premiers stages nationaux, internationaux, dans la première année, donc j'étais un peu empoudée, mais on voit des choses. Et donc j'ai pratiqué aussi avec certains maîtres japonais, bien sûr, qui maintenant sont décédés, mais qui étaient, que OSNC avait emmené, comme Yamaguchi, Tamura, Sao Tome, qui maintenant lui vit aux États-Unis. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Donc j'ai pratiqué aussi avec pas mal de professeurs japonais.
D'accord.
Le sensei, comme on dit.
C'est une grande communauté, alors.
C'est une grande communauté. Alors, bien sûr, la base de l'aïkido, ça vient du Japon. Mm-hmm. Ça a été ramené assez rapidement dans l'Europe et en France. Et c'est presque... Enfin, la France est le berceau de l'aïkido en Europe, et ça a monté très, très vite avec Christian Tissier Sensei, donc qui a un 8e dan maintenant, et qui en effet est parti quelques années au Japon, et qui nous a ramené ça ici. On a eu aussi Tamura, pareil, Noke, qui sont partis, qui sont revenus au bout de 3, 5, 6 ans d'apprentissage là-bas, et qui l'ont développé. Et après, eux l'ont développé au niveau mondial. J'aurais envie de dire que le berceau, vraiment, de l'aïkido, c'est le Japon. Mais le deuxième berceau qui a essaimé partout dans le monde, ça vient de la France, en fin de compte. Donc on est quand même plus de pratiquants en France que dans beaucoup de pays. Enfin, ça change peut-être, mais voilà.
Pour vous, quelle est la prise d'aïkido la plus compliquée à prononcer ?
Alors ouais, quand j'ai entendu le mot, j'ai cherché la prise qui était la plus difficile à faire, en fin de compte, prononcer. Je me suis dit, ça dépend, en fin de compte, parce qu'en effet, l'aïkido, en fin de compte, ça peut être... on associe des mots, parce qu'on associe une façon de travailler. Donc on a le travail à main nue, c'est soit en suwari waza à genoux, soit ami en dachi waza. Un genou, un debout, soit tachi waza. Après, on dit la frappe. Yokomen, ushiro, ryotedori, ushiro, kubishime, ryotedori. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc, si je dis, je ne peux pas dire un mi en tachi waza, mais je dis tachi waza, ushiro, ryote, kubishime, Et derrière, je vais rajouter une autre technique qui va être côté gaichi, omote. Donc ça fait un truc long quand on l'annonce, en fin de compte, mais c'est que des mots qu'on associe les uns aux autres. On est obligé, en effet, d'apprendre les termes japonais. On ne parle pas du tout japonais, hein, mais on est obligé, parce que oui, toutes nos techniques sont annoncées en japonais, bien sûr. Alors, quelquefois, on essaie de trouver un parallèle en français pour expliquer, pour imager, mais tout est en japonais autrement.
D'accord, c'est chouette ça.
Nous avons découvert qu'il existait plusieurs clubs d'aïkido sur Poitiers et dans les alentours. Votre club se divise sur deux dojos, le dojo de la Ganterie et le dojo complexe Michel Armand. La particularité du club d'aïkido Stade Poitevin, c'est qu'il y a de nombreux professeurs qui amènent une vraie diversité dans l'enseignement. Donc, comment a été créée l'association ?
Alors, en fin de compte, l'association a été créée au début par une annexe du Stade Poitevin. On fait partie du Stade Poitevin depuis le début. Donc, il y a le Stade Poitevin Omnisport avec toutes les sections. Et au début, il n'y avait pas une vraie section aïkido, donc c'était plutôt une section budo. Donc, en 77, ils ont créé un petit groupe, ils s'entraînaient mais dans des petites salles et tout. Ils ont créé, ils étaient liés au judo, jiu-jitsu, aïkido. Ils ont créé cette section qui était donc un petit peu indépendante. Quoi. Et puis en 88, ils ont vraiment le Stade Poitevin Aïkido est arrivé comme une vraie association, même si on est lié au Stade Poitevin, mais on est une association à part entière. Et en 88, ouais. Et c'est donc en fait, quand je me suis rendu compte que c'est l'année, enfin, ils ont dû commencer en début 88. Dans notre club, donc en effet, l'intérêt de notre club petit à petit, au début, il y avait un professeur qui arrivait, diplômé d'État, qui arrivait d'ailleurs pour. De Sainte, Jean-Michel Méry, qui maintenant n'est plus présent parce qu'il est décédé. Et petit à petit, on a monté notre club, en fin de compte. On a eu des passages grades. Puis après, dans nos grades, il a fallu passer des diplômes d'État ou des brevets fédéraux pour pouvoir enseigner. Et là, actuellement, le club, il est hyper riche en haut gradés et en diplômés d'État. Donc en diplômés d'État, c'est ce que je regardais, on est trois. Il y a Christian Basse, donc le plus haut gradé du club, qui est sixième dan. Il y a moi, qui suis cinquième dan et qui donc est mon diplôme d'État aussi. Et il y a Steven Boison, qui lui est quatrième dan et qui est diplômé d'État. Et après, on a, c'est ce que j'ai calculé, quatre autres qui sont brevets fédéraux. Donc ça veut dire que le brevet fédéral, il ne pourrait pas enseigner contre... Enfin, tu es obligé d'être bénévole. Alors nous, diplômés d'État, on est tous bénévoles aussi. Mais on pourrait en effet se professionnaliser. Voilà, c'est ce que ça veut dire quand on a ce diplôme-là. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, on peut aussi aller faire passer des dames. Enfin, voilà, alors que là, dans les autres, non. Et en brevet fédéral et en enseignant sur ici, on a... Si je prends dans le temps, mais Dominique Lorillard, qui est donc cinquième dan et donc lui, brevet fédéral. Il y a Claude Jobert, qui est troisième dan. Christian Guichard, qui est troisième dan. Et puis Nicolas Tranchant, qui est donc deuxième dan. Et en sachant, si je prends le tout début, donc bon, en fait, quand je suis arrivée en 88, Dominique Lorillard, Christian Basse, qui sont encore présents, étaient là en 77. Et donc, ça veut dire que c'est des pratiquants là qui continuent à pratiquer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans l'aïkido, on peut continuer très très longtemps, puisqu'ils ont entre 75 et 77 ans. Et qu'ils pratiquent encore. Ils ne font pas que des cours. Et qu'ils chutent aussi encore.
Et donc, combien est-ce qu'il y a d'adhérents qui sont inscrits ?
Alors, là, on est en train de remonter. On est 58 cette année. En sachant qu'en 2023, donc le post-Covid et la période où on a perdu notre dojo pendant 18 mois, on était sous le chapiteau devant la salle là-bas. Donc en hiver, il fait froid, pieds nus, on ne pouvait pas pratiquer tellement, chuter, on ne pouvait pas. Donc on n'a pas eu de chance, on a eu cette période-ci, plus la période Covid après. Donc là, il y a eu beaucoup de pertes dans les pratiques. Parce qu'on se tient à l'aïkido, on se touche tout le temps, du coup on ne savait pas faire. Donc on a remonté. En 2023, on était 31, et là, aujourd'hui, 2025, on est 58. Et alors, moi, je vois la différence aussi, c'est que quand j'ai commencé, quand j'ai passé ma ceinture noire en 97, en gros, on disait qu'il y avait 10% de femmes. Là, j'ai regardé, sur 58, il y a 34 hommes, 24 femmes. Donc c'est pas mal. Donc, il y a 15 enfants aussi dedans, mais c'est pareil, je pense qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc c'est en train vraiment de se féminiser aussi. Donc c'est intéressant aussi.
C'est chouette.
Ouais, voilà.
Combien de séances vous proposez par semaine? Et combien de temps à peu près?
Voilà, donc en fin de compte, il y a 4 avec celle-ci. Il y a 5 cours adultes. Il y a un cours. Il y a 1h30 de cours jeunes. La première heure, c'est les jeunes tous ensemble, donc à partir de 6 ans jusqu'à 16 ans, 17, pour ceux qui ne veulent pas passer au cours du samedi matin. Et la dernière demi-heure, c'est que pour les plus grands, donc 12-16 ans. Et en cours adulte, eh bien, on a en fin de compte 5 cours adultes. On a un cours le lundi soir qui est au complexe Michel Amand à Buxerolles de 2 heures. Normalement, à chaque fois, c'est des cours de 2 heures. Après, quelquefois, on fait qu'une heure et demie. Le mercredi soir à la Ganterie, le vendredi soir à la Ganterie, Le samedi matin à la Ganterie de 10h à midi, c'est un cours un peu plus particulier qu'on a appelé cours débutant et grand adolescent, en sachant que dans ce cours-là, en fin de compte, on a des anciens qui sont premier dan ou même plus, qui viennent aussi parce qu'on bosse de façon différente, tout simplement. Et puis c'est intéressant de revoir un peu les bases. On a dit à l'aïkido, on est toujours débutant. Il faut garder l'esprit du débutant à l'aïkido. Et il y a un cours supplémentaire qui se fait de 12 à 13, qui est une préparation plutôt grade maintenant. Donc, ça nous fait 5 cours quand même dans l'année. Enfin, pas dans la semaine, excusez-moi.
Donc, est-ce que vous pensez être la personne avec le plus d'expérience ou plutôt le boss final, même au-dessus de...
Non, c'est Christian Basse. Christian Basse qui, alors, sur le papier et puis sur la pratique, il est 6e dan. Donc, voilà, il a été 6e dan en 2019, diplômé d'État. Et puis, lui, il était là dès 77 en plus. Donc, en durée, il est toujours là. En pratique, il est toujours là. Et il a toujours continué à évoluer. Donc, c'est là. Après, en effet, je fais partie des plus anciens et des plus gradés après. Mais, autrement, notre sensei à nous ici, c'est notre Christian Basse.
Pour les auditeurs qui écoutent ce podcast, que pouvez-vous leur partager pour leur donner envie de commencer l'aïkido ?
Alors, l'aïkido, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est un art martial, mais en côté défense, pas attaquant normalement. Alors, on est obligé d'apprendre à attaquer pour pouvoir déclencher des mouvements et pour mettre en mouvement, en fin de compte, le partenaire qui est en face. Alors, c'est ce que je dis, là, je dis partenaire, par rapport à beaucoup de budo où on dit c'est un truc avec un adversaire, c'est de la compétition. À l'aïkido, il n'y a pas du tout de compétition. On est tout niveau, donc tous ensemble. Donc ça, et ça, c'est un truc que je trouve qui est très, très important parce qu'en effet, on se retrouve sur le tatami avec quelquefois des jeunes de 17, 18 ans, des 75 ans, des 20 ans, des 40 ans, des 30 ans, tous ensemble à pratiquer. Là, même le cours de ce matin, c'était un cours débutant, mais donc on avait été... Moi, je suis venue alors que c'était pas moi qui donnais le cours. Donc j'ai pratiqué alors que c'est Nicolas qui donnait le cours. Et ça, c'est une bonne chose. Nicolas est donc deuxième dan. Je suis cinquième, mais là, j'ai pratiqué comme élève. Voilà, on a ce temps de partage qui est, je pense, très, très important. On travaille donc avec un partenaire plutôt qu'un adversaire parce qu'on a besoin de lui. Aïkido veut dire un peu... Alors, on parlait au début de la voie de l'harmonie. Maintenant, on dit plutôt la voie de la concordance parce qu'on a besoin l'un des autres et il faut à un moment se rencontrer pour communiquer. Si on n'a pas d'attaque, on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, au milieu de tout ça, on utilise donc le mouvement que donne l'attaque de l'autre. Ça crée un mouvement. On utilise ce mouvement pour le déséquilibrer, entretenir ce déséquilibre pour amener à une chute ou une immobilisation. Il faut se dire que la chute n'est pas non plus une défaite. Le uke, alors tori uke, le uke, quand il chute, c'est pour se sauver, c'est pour se sortir d'une situation sans se blesser non plus. Et pour éventuellement réattaquer aussi. Donc il y a vraiment tout un mouvement de dynamisme entre les deux partenaires. Et on a besoin l'un de l'autre pour avancer et créer, en fin de compte. Et dans l'aïkido, dans ce budo-là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en effet, il y a vraiment de la création. Je regardais en technique, et ils nous disent qu'il y a à peu près 3000 techniques différentes. Donc on peut se dire, en 30 ou 40 ans, on pourrait les connaître parfaitement. Sauf que chaque technique, ils mettent à peu près 16 variantes par technique. Donc, on commence à être à des milliers de techniques. Omote ou ura, donc positif ou négatif, ou intérieur ou extérieur. C'est une façon de parler aussi. Et au milieu de tout ça, c'est la rencontre qui va créer la technique. Donc, tout d'un coup, il va y avoir une naissance d'une technique un petit peu différente. On parle aussi d'inspiration, d'expiration. Enfin, voilà. Donc, ce qui je trouve est très, très intéressant dans l'aïkido, c'est la rencontre avec d'autres, la progression avec les autres, on en a besoin. Et puis surtout le fait qu'il n'y a jamais de fin, en fin de compte. Parce que moi, je veux dire, j'arrive à 40 ans, pas à 40 ans, mais presque quand même, d'aïkido, hein, pas d'âge. Et il y a des moments, en effet, on baisse un peu les bras. À chaque fois que je me suis sentie un petit peu en me disant, est-ce que je continue ? J'ai pas trouvé d'autre activité qui me plaisait. Mais en plus, à chaque fois, quand c'est comme ça, je prends mon sac, je vais faire un stage, toute seule. Et quand je reviens, je dis, je continue avec. Parce qu'il y a toujours des choses à faire, toujours des choses. Et on progresse dans notre façon de faire. Moi, je pense que j'étais quelqu'un toujours très, très vif, très rapide et tout. Mais à 59 ans, ma rapidité, ma vitesse avec les 20 ans, je ne vais pas la gagner longtemps. Donc, il faut que je trouve autre chose. Donc, mon placement est meilleur. Il faut que je sois plus préparée, prête à tout. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc, il y a ça aussi. L'aïkido nous permet de faire des translations de ce qu'on apprend sur le tatami en extérieur aussi, parce qu'en effet, on apprend à être vigilant, à être prête, à regarder ce qui va se passer, à répondre à ce qui se passe C'est pas bah, au début, on apprend, on est codifié, mais après, c'est plus codifié du tout.
En fait, c'est tout un parcours de vie, l'aïkido.
Ouais, je pense que voilà, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et bon, moi, j'en fais un peu de temps, mais si on parle de Christian Basset, je disais Christian Basset et Dominique Loyard, moi, j'ai débuté, ils étaient là. Donc, je vous dis, Dominique, je ne sais plus si c'est pas 77 ou 78 ans cette année. Et quand je vois ce qu'il fait encore, il vient à plusieurs entraînements par semaine. Et il est élève, alors il fait les cours enfants, donc il est capable d'enseigner sans problème. Et il est élève, et dans les élèves, enfin, il chute, quoi. Et puis, quand quelquefois on l'a en face de nous, parce qu'il a une musculature, alors qu'il est tout, enfin, il n'est pas très très grand, Dominique, comme moi, mais on a appris à se placer, si bien qu'on peut vraiment déplacer les autres, puisqu'on n'a pas besoin. Alors, dans l'aïkido, ouais, c'est ça, on utilise la force de l'autre pour le faire chuter. Donc, en fin de compte, si quelqu'un m'attaque, je vais le laisser passer, puis éventuellement, quoi, puis il va dire, oh, il s'est passé. Donc, on n'a pas besoin d'être le plus fort. Ce qui permet en effet que ça reste une philosophie de la vie de tous les jours et de la vie en général, et à translater là sur ça, et sur aussi, oui, à pouvoir se dire, ben, ce que je cherchais à 20 ou 30 ans, où j'avais besoin de chuter 150 fois dans la séance, maintenant, ben non, 150 chutes dans la séance, ça va me fatiguer, quoi. Mais je suis capable d'en faire 50 si besoin, et puis il y a le placement, et puis il y a le fait que ça soit un peu plus rond, enfin voilà, tout ça.
Donc merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast, et à bientôt.